Tout pour investir, le coach.
Et notre coach aujourd'hui, Caroline Ménager, cofondatrice de Pixpay. Bonjour Caroline.
Bonjour.
On va parler de l'éducation financière des enfants. Vous dites que c'est quelque chose d'important, il ne faut vraiment pas éviter le sujet.
Exactement. Alors déjà, en tant qu'adulte, il y a beaucoup de parents qui se disent, de parents d'adultes, qui se disent que l'éducation financière, ça ne leur parle pas, ils ne savent pas comment gérer le sujet. Et donc ça leur paraît d'autant plus compliqué de se dire, mais qu'est-ce que je vais apprendre à mon ado? Moi, on ne m'a rien appris, comment je vais faire? Et pour autant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on interroge la génération Z, donc nos ados, pour faire court,
Gen Z.
La Gen Z, seuls 6% d'entre eux considèrent qu'ils ont des compétences financières suffisantes. Donc effectivement, il y a de grosses lacunes, et ces grosses lacunes, elles vont avoir des répercussions concrètes, et vraiment concrètes à l'âge adulte. Par exemple, quelqu'un qui a un niveau d'éducation financière faible, il va perdre en moyenne 2 390 € par an par rapport à quelqu'un qui a des compétences financières moyennes. Et puis ça a aussi des répercussions en termes d'inégalité sociale.
Ouais.
Et d'inégalité de genre. Alors, inégalité sociale, évidemment, quand on n'a pas été éduqué, quand on vient d'un milieu plus modeste, où l'éducation à l'argent n'a pas été faite, bah, effectivement, on va reproduire... Les mêmes erreurs, et c'est dommage, et en plus, on va voir après, il y a des choses faciles pour lutter contre ça. Et inégalité de genre, on voit qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont globalement moins à l'aise avec les sujets financiers. Un petit exemple, 41% des femmes sont à l'aise pour négocier leur salaire avec leur boss. C'est 58% des hommes. Donc, il faut pouvoir rétablir un petit peu l'équilibre.
Alors, ceux qui sont opposés à l'éducation financière donnent toujours deux exemples. Ils nous parlent de l'éducation financière des femmes telle qu'on le faisait dans les années 50 ou 60. On leur apprenait à être une bonne ménagère et à tenir un budget. Ça, c'est un excès. L'autre excès, c'est ce qui se passe aux États-Unis où on envoie les enfants faire des stages quand ils ont 7 ou 8 ans pour devenir trader ou directeur général de multinationales. Après tout, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter pour leur avenir. Vous vous dites non, ce sont des notions assez simples et surtout, il faut vraiment les apprendre lorsqu'on est jeune.
Exactement. De toute façon, il y a une réalité. C'est que les adolescents, dans la très grande majorité d'entre eux, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent de poche. Donc, on ne peut pas dire non, mais je ne veux pas leur apprendre à gérer leur argent parce qu'ils en ont. Donc, il faut pouvoir se mettre sur le sujet. Mais encore une fois, comme vous le dites, ce n'est pas un sujet de devenir un trader demain. Et ce n'est pas un gros mot.
Ce n'est pas un gros mot sur ce plateau, devenir trader.
Non, mais ce n'est pas forcément le graal de tous les parents. Et je ne dis pas du tout que c'est un gros mot, mais en tout cas, je ne veux pas que les gens qui ne se considèrent pas comme des futurs traders se disent ah, c'est pas pour moi, je ne vais pas le faire.
Ouais.
Et donc, l'éducation.
C'est une forme d'excès, évidemment, qu'on met toujours en avant lorsqu'on est des détracteurs de l'éducation financière des enfants.
Alors
c'est de bonne guerre.
C'est de bonne guerre. Mais pour autant, moi, je pense que ça a vraiment un impact positif sur tout à chacun et quelles que soient ses ambitions. Et effectivement, l'éducation financière, c'est pas si sorcier que ça, en fait.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quand même le risque de rendre le sujet un peu anxiogène en comparant la richesse ou pas d'ailleurs de sa famille par rapport à une autre famille ou en étant obsédé par le besoin d'épargner?
Alors, moi je pense qu'il y a au contraire des façons de rendre cet argent pas anxiogène. Et la première chose en fait qui peut générer de l'anxiété chez les enfants, c'est de pas en parler. C'est d'en faire un tabou. Alors je pense que ce tabou autour de l'argent, globalement, il est quand même vraiment... On n'est plus dans les années 50, 60, il a significativement diminué. On arrive à parler d'argent au sein de la famille, même si dans l'essentiel, les enfants ne vont pas connaître le salaire de leurs parents. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Mais on parle de plus en plus d'argent. Ça c'est sûr. Et donc moi je recommande vraiment aux parents d'en parler avec leurs ados. Et évidemment, il y a des familles, et les enfants ne sont pas dupes. Ils ont bien conscience que leurs parents ont plus ou moins de budget que les parents de leurs petits copains. Ça, c'est certain. Mais je pense que, même si le parent qui a des difficultés financières, je lui recommande de ne pas aller s'épancher auprès de ses enfants sur la difficulté à boucler les fins de mois. Ça, je pense que ça peut vraiment créer de l'anxiété. Mais c'est important de pouvoir le reconnaître, de dire, bah, effectivement, on a peut-être moins de moyens que d'autres familles, mais on est capable de faire d'autres choses.
D'autres choix. Ouais. Point intéressant, vous dites, il ne faut pas faire de l'argent une contrepartie des bonnes notes à l'école. C'est pourtant quelque chose d'extrêmement courant. Je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas une bonne idée de faire le lien entre le travail et donc la réussite scolaire et l'argent? Je vais pas vous faire du Sarkozy, gagner plus, travailler plus pour gagner plus, mais il y a une idée en fait d'établir un lien entre travail et argent.
Alors, je comprends tout à fait. On a bossé avec plusieurs psychologues qui nous ont vraiment mis très en avant ce point de pas faire un lien entre argent et réussite scolaire. Alors, ce qui paraît évident, c'est effectivement plutôt pour les enfants qui vont être en difficulté scolaire liée. L'atteinte d'une bonne note à de l'argent en plus, s'il n'y arrive pas, ça peut pour le coup générer énormément de frustration. Et donc ça, je pense que c'est vraiment pas une bonne chose à faire.
Donc on peut le faire si l'enfant réussit. Parce que là, c'est une récompense pour un travail. En revanche, si l'enfant a des difficultés, il ne faut pas le sanctionner. C'est ça, en fait.
Alors, s'il a des difficultés, il ne faut pas le sanctionner. S'il réussit, moi, ce que je recommande en échange avec des psychologues, ce n'est pas forcément de mettre à chaque fois la carotte de l'argent. C'est plutôt, éventuellement, de projeter ça dans un projet, dans une envie de l'adolescent et de l'aider à réaliser un projet. J'ai envie d'acheter telle chose, d'aller faire tel week-end avec des copains et de mettre la petite carotte, mais pas forcément financière. Après, ce qui est sûr, c'est que récompenser à la fin de l'année, un brevet, un bon bulletin, une bonne année scolaire, c'est des rites de passage qui sont intéressants et que je trouve tout à fait positifs.
Très concrètement, comment est-ce qu'on aborde le sujet avec les enfants? Surtout, à partir de quel âge est-ce qu'on peut parler d'argent? Et en gros, dans les grandes tranches d'âge, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants?
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on peut parler d'argent à son enfant très tôt et dès la maternelle.
Très tôt, c'est-à-dire
4-5 ans. En fait, à partir de 4-5 ans, un enfant va avoir la capacité cognitive d'épargner et de dépenser. Alors, à cet âge-là, c'est très simple. Et il faut qu'il comprenne que, un, on ne peut pas tout acheter. Et ça, ça va être les premières notions de limite. Il va aussi comprendre que l'argent, ça se gagne. Et ça permet d'acheter des choses, pas tout, mais ça permet d'acheter des choses. Donc voilà, on va dire à 4-5 ans, maternelle, c'est vraiment des notions.
En gros, c'est tout ce que les banques centrales nous disent pas. Elles nous font croire qu'il y a de l'argent magique.
Exactement. Donc voilà, on va prendre les principes de base dès le plus jeune âge.
Ouais. Donc ça, c'est quand l'enfant est à la maternelle.
Oui.
Ensuite, à partir de quel âge est-ce qu'on peut faire payer les courses par un enfant? Je veux dire, je sais pas, acheter une baguette de pain, lui donner la pièce qui va permettre de l'acheter, faire une transaction.
Alors, la première transaction, en moyenne, elle a lieu à 9 ans. Donc vraiment, on est en plein dans la primaire. Elle est souvent accompagnée du parent qui va être à côté. Mais voilà, la primaire, c'est vraiment le moment où l'enfant va pouvoir commencer ses débuts d'autonomie, aller, je pense que la boulangerie, c'est un petit peu l'archétype de la première dépense que va faire un jeune enfant. Donc voilà, donc primaire, c'est je vais faire des premiers achats, je vais manipuler de la monnaie, et il y a souvent la dent qui tombe, la petite souris.
Ouais.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Souvent une pièce, 1 euro, 2 euros.
C'est horrible, cette histoire. on est en train de, on va apprendre aux enfants qu'on peut vendre un organe et avoir de l'argent. Vous trouvez que c'est une bonne idée de donner de l'argent en échange d'une dent de lait?
Moi, je trouve que c'est un rite, et donc je suis quand même assez favorable à la perpétuation des rites. Je pense que ça... Et c'est souvent, en fait, surtout la première pièce que l'enfant va avoir dans sa vie. Donc moi, je la trouve intéressante. Et ce qui est marrant, c'est que dès cet âge-là, en fait, on va voir des comportements émerger, des différences de comportements. Il y a les enfants qui vont aller vouloir avoir leur tirelire, mettre leur pièce dans la tirelire, épargner. Et puis ceux qui vont plutôt aller acheter le petit paquet de bonbons parce que ça leur fait plaisir.
À partir de quel âge c'est une bonne idée d'offrir de l'argent à un enfant pour son anniversaire plutôt qu'un cadeau?
Très clairement, c'est plutôt à partir du collège, vers 11-12 ans. Et c'est à la fois une bonne idée, ça va commencer à être une demande des jeunes qui vont plutôt préférer des cadeaux en argent que des cadeaux physiques.
On dit souvent ça leur permet de choisir, mais ça leur permet aussi d'épargner s'ils le souhaitent.
Exactement. Et donc, c'est un bon moment aussi pour les confronter à ce choix de l'épargne versus la dépense.
Allez, il nous reste peu de temps, mais il y a une question très importante, l'argent de poche.
Oui.
Comment est-ce qu'on le gère?
Alors, l'argent de poche, comment on le gère? La première chose, c'est que généralement, moi, ce que je recommande, c'est de donner de l'argent de poche à l'entrée au collège pour accompagner vraiment l'autonomie de l'adolescent qui va pouvoir commencer à faire ses propres choix, à se détacher un petit peu de la prédominance de ses parents et se dire qu'est-ce que j'ai envie d'acheter, comment j'ai envie de le dépenser. Au 6e, 5e, moi, je recommande vraiment de le donner toutes les semaines. C'est plus simple. Gérer un budget au mois, c'est compliqué. À partir de la 4e, si on sent que l'ado a suffisamment de maturité, on peut passer sur un budget au mois. Ce qui est très clair, en revanche, c'est que donner de l'argent de poche régulier, c'est vraiment comme ça qu'on va faire de l'apprentissage à la gestion d'un budget. Si on veut faire un cadeau, on donne de l'argent de poche, de l'argent ponctuellement. Mais l'argent de poche régulier, on va dire, c'est un peu le sacro-saint de l'éducation financière.
Un dernier mot très vite, il nous reste peu de temps, mais chez PixPay, qu'est-ce que vous faites et comment vous aidez justement à gérer cet argent de poche?
Alors, chez PixPay, on propose en fait une carte de paiement pour les ados copilotée par deux applications. Une application pour l'adolescent et une application pour son parent. Et en fait, l'adolescent, il va pouvoir, grâce à son application, apprendre à gérer son budget. Il y a plein de fonctionnalités pour apprendre à mettre de côté facilement, pour se faire payer des petits boulots, faire un babysitting.
Donc c'est une façon d'apprendre les services bancaires, en fait, quand on est adolescent.
Exactement, mais de les apprendre par la pratique. Et on se rend compte qu'on ne retient jamais mieux que quand on apprend très concrètement et dans les faits comment gérer son argent.
Merci beaucoup, Caroline Ménager, pour tous vos conseils. Cofondatrice de PixPay.